Importance dans la parole et pour nous, j'espère. Oui, j'aimerais lire quelques versets dans le livre de Deutéronome, chapitre 12. On va commencer. Deutéronome 12, verset 4. Vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel, votre Dieu, mais vous chercherez le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira d'entre toutes vos tribus pour y mettre son nom, le lieu où il habitera, et vous y viendrez. Et vous apporterez là vos holocaustes et vos sacrifices et vos dîmes et l'offrande élevée de vos mains et vos vœux et vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Et là vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et vous vous réjouirez, vous et vos maisons, dans toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, dans lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Verset 10. Mais lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous habiterez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous fait hériter et qu'il vous aura donné du repos à l'égard de tous vos ennemis alentour, et que vous habiterez en sécurité, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire habiter son nom. Là, vous apporterez tout ce que je vous commande. Verset 14. Mais dans le lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, là tu offriras tes holocaustes, et là tu feras tout ce que je te commande. Verset 18. Mais les mangeras devant l'Éternel ton Dieu au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, toi et ton fils et ta fille et ton serviteur et ta servante et le Lévite qui est dans tes portes, et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu en tout ce à quoi tu auras mis la main. Prends garde à toi de peur que tu ne délaisses le Lévite tous les jours que tu seras sur la terre. Verset 21. Si le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y mettre son nom est loin de toi, alors tu sacrifieras de ton gros et de ton menu bétail que l'Éternel t'aura donné, comme je te l'ai commandé, et tu en mangeras dans tes portes selon tous les désirs de ton âme. Comme on mange de la gazelle et du cerf, ainsi tu en mangeras. Celui qui est impur et celui qui est pur en mangeront également. Verset 26. Toutefois, les choses que tu auras sanctifiées, qui seront à toi, et celles que tu auras vouées, tu les prendras et tu viendras au lieu que l'Éternel aura choisi et tu offriras les holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et le sang de tes sacrifices sera versé sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et tu en mangeras la chair. Au début, jusqu'ici, la parole de Dieu. Le livre de Deutéronome, quelques remarques introductives. J'ai peur que c'est un de ces livres qu'on connaît le moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des actions dans ce livre. Il y a des livres de la parole, Exode, Nombre, Josué, Juge, Samuel, etc., où on trouve le peuple de Dieu ou personnes qui sont actives, qui font quelque chose. Même dans les prophètes, disons Ézéchiel, il y a des histoires où on trouve que Dieu a ordonné à Ézéchiel et d'autres personnes de faire quelque chose. Et c'est plus facile de lire ces livres de la parole, dans la parole. Mais on ne trouve rien du tout de cela dans Deutéronome, comme dans Jérémie, plus ou moins. Et ce sont, à mon avis, les livres qu'on lit le moins. Parce que c'est un peu dur de lire que des discours en Deutéronome. C'est, dès le début jusqu'à la fin, c'est que Dieu a donné à Moïse à prêcher, à parler. Mais il y a une valeur, spécialement dans Deutéronome, qui, à mon avis, est extraordinaire. J'aimerais motiver un peu de regarder dans ce livre, de vraiment étudier ce livre, parce qu'il y a des pierres précieuses dans ce livre qu'on ne trouve pas ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on peut le dire que ce livre est vraiment très très précieux? Si on regarde la vie de notre Seigneur, on voit par exemple très tôt dans son service, même avant son service public, que Satan a attaqué le Seigneur spirituellement. Et il a essayé de faire pécher le Seigneur. Il a essayé que le Seigneur agisse indépendamment de Dieu. On le trouve dans Matthieu 3 et Luc 3, au moins les trois dernières tentations de Satan. Et le Seigneur a toujours répondu par la parole de Dieu, trois fois. Et l'Ancien Testament a beaucoup de livres. Moi, je compte 36, peut-être 39, c'est pas grave. Beaucoup de livres. Mais il a choisi, dans les trois cas, seulement un livre. Et c'est Deutéronome. Même dans juste les chapitres 6 et 8. Juste deux chapitres, pour ainsi dire, les chapitres n'existaient pas à cette époque-là. Mais il a choisi ce livre. Pourquoi? Peut-être c'est aussi là une raison pour laquelle on a une certaine difficulté avec ce livre. Parce que le Seigneur a voulu être obéissant à Dieu. Et si on cherche un titre pour ce livre, c'est obéissance. Le livre de Deutéronome, c'est vraiment quelque chose qui enseigne au peuple d'Israël, et parce que ça fait partie de la parole de Dieu éternel, pour nous aussi, le caractère d'être obéissant. Et le Seigneur était obéissant dès le début jusqu'à la fin. Et peut-être pour nous, obéissance, c'est une leçon pas tout à fait facile à apprendre. Nous tous étions des enfants, et comme enfants déjà, c'est difficile à apprendre à être obéissant aux parents. Et nous, comme parents, ou grands-parents, c'est difficile quelquefois avoir une autorité morale sur nos enfants, petits-enfants, parce que nous ne sommes pas des modèles pour eux. Certainement, les enfants n'ont jamais un argument de dire « parce que tu n'es pas fidèle dans ton obéissance, je ne dois pas être obéissant. » Les parents sont autorité pour les enfants parce qu'ils sont parents, parce que Dieu a donné cette autorité. Mais quand même, pour nous, pour moi comme père, il faut constater que peut-être mon autorité manque parce que moi, dans ma vie, au Seigneur, à Dieu, il manque cette obéissance directe, stricte, conséquente. Et le Seigneur nous est un modèle parfait. Et on le voit dans ses tentations et on l'apprend dans ce livre ici. Mais ce n'est pas la seule chose qui est précieuse. Il y a une deuxième chose que j'aimerais mentionner pour le peuple d'Israël. Peut-être j'ai déjà mentionné cela dans une des années précédentes. Le peuple d'Israël, Dieu les a envoyés pour aller dans le désert, pour entrer dans le pays. Et quelle était l'attente, pour ainsi dire, dans le pays pour le peuple d'Israël? C'était beaucoup des guerres. C'était un temps difficile parce qu'il y a autant des ennemis, 7, 9, comment on peut compter, beaucoup des ennemis, et le temps pour entrer, pour avoir possession de ce pays était difficile. Pourquoi est-ce que le pays était attractif pour le peuple d'Israël? Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé, mais c'est une valeur d'y aller? Parce que Dieu a dit en avance, comme il le fait toujours, la valeur de ce pays. Il a dit dès le début, c'est un pays qui est plein de miel et de lait. Oui, merci. Lait et miel. Mais ce n'était pas la seule chose qu'il a dit sur le pays. C'est qu'en Deutéronome 8 que nous trouvons toute la valeur, toute la beauté de ce pays. Il commence dans le verset 7, car l'Éternel, chapitre 8, verset 7, car l'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, un pays de ruisseaux d'eau, des sources et d'eau profondes qui sortent dans les vallées et dans les montagnes. Et après, il parle des fruits, froment, l'orge, vigne, etc. Il montre vraiment que c'est la peine d'y aller parce que c'est un pays tout à fait différent que Égypte et certainement le désert. Ça veut dire, dans ce livre, on trouve vraiment toutes les choses que Dieu a voulu donner à ce peuple. C'est la même chose pour nous. La vie pour nous, pour entrer dans le pays, ça veut dire le ciel, et le ciel qui n'est pas le ciel de l'avenir pour nous, ça veut dire quand le Seigneur va revenir, mais c'est le ciel où nous avons déjà aujourd'hui la place. Éphésiens 2, nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Alors, il y a des ennemis, c'est Satan avec ses anges qui ne veulent pas qu'on entre, quand on a la possession de ce pays. Mais Dieu nous montre en avance quelle est la valeur de ce ciel pour nous déjà aujourd'hui. Christ avec toutes ses gloires, et en même temps, c'est Colossiens 1, 2, 3, et en même temps, les bénédictions spirituelles que nous trouvons dans Éphésiens 1 à 3. Alors, le Seigneur nous montre cette valeur. Et la question reste, est-ce que nous connaissons cette valeur? Et est-ce que le ciel, pour nous, aujourd'hui déjà, est-ce que le ciel est attractif d'y entrer, pratiquement? Parce qu'en position, on est là déjà. Ça, pour moi, c'est vraiment une deuxième point qui fait ce livre vraiment attractif. Et un troisième, si on regarde chapitre 15, il est dit dans le verset 12, « Si ton frère, un hébreu, comme homme ou femme, t'a été vendu et te servira 6 ans, et la 7e année, tu le renverseras libre de chez toi. » Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas à vide, etc. On connaît ce passage, n'est-ce pas? Dans Exode 21, on a le même sujet. C'est en fait au début des ordonnances, après les 10 commandements, il est dit dans chapitre 20, Exode 21, verset 2, « Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 années, et la 7e, il sortira libre gratuitement. S'il est venu seul, il sortira seul, etc. » Ce paragraphe, Exode 20, 21, nous montre le Seigneur, un serviteur hébreu. Maintenant, si tu compares avec Deutéronome 15, ce n'est pas un hébreu, serviteur hébreu, mais un hébreu homme ou femme. Pourquoi est-ce que ça me fait ce texte, ou ce livre en fait, attractif? Deutéronome, le nom qui vient de grec en fait, de la Septuaginte, la traduction grecque de l'Ancien Testament, veut dire, Deutéronome, deuxième loi. Mais deuxième loi ne veut pas dire c'est la répétition de la loi une deuxième fois. Mais la deuxième loi veut dire c'est plus ou moins les mêmes ordonnances, mais tout à fait dans une autre perspective. Ça veut dire le sens spirituel, la leçon que nous trouvons dans Deutéronome 15 en comparaison avec Exode 21 est tout à fait différent. En Exode 21, c'est une image extraordinaire de la personne de notre Seigneur. Dans Deutéronome 15, ça parle de toi et moi, homme ou femme. Et il y a une application dans une autre direction, en fait, c'est pas le sujet aujourd'hui, sur notre vie ici sur la terre, s'il y a quelqu'un qui a péché contre nous. C'est le sujet donc de Deutéronome 15. Alors, la comparaison des lois dans Deutéronome en comparaison avec Exode, Lévitique et quelques de nombres, fait éclater, fait montrer un peu la richesse de la parole de Dieu. C'est la même chose dans le Nouveau Testament, avec les évangiles. Il y a plusieurs passages qui sont plus ou moins pareils dans les évangiles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes leçons, les mêmes détails que les autres passages qui sont semblables. Et pour moi, ça fait la parole de Dieu vraiment vivante. Parce que ce n'est pas deux fois la même chose, mais deux leçons, même si le texte est très similaire. Voilà. Et une quatrième pierre précieuse, c'est ce que nous avons lu. Ceux qui connaissent un peu le livre de Deutéronome savent que ce que nous avons lu dans le chapitre 12, six fois, ça veut dire le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira ou a choisi, on trouve 21 fois dans ce livre. 21 fois. Certainement, si Dieu dit une chose une fois, c'est vrai, et c'est utile, et c'est important. Bon, importante. Mais s'il souligne cette expression par 20 répétition, 21 fois ensemble, 3 fois 7, ça nous montre que Dieu souligne quelque chose dans ce livre. Maintenant, certainement, le lieu que Dieu a choisi, ou choisira, c'était pour Israël, Jérusalem. Il est bizarre, il est remarquable, mais aussi triste. Dieu a dit cela 21 fois dans Deutéronome. Ça veut dire tout à la fin de leur voyage dans le désert. Si Dieu me dit, pour ainsi dire, une chose 21 fois hier, elle a dit hier, je pense aujourd'hui je vais commencer à chercher ce lieu, n'est-ce pas? Quand elle a dit c'est si important pour Dieu qu'il a parlé 21 fois sur ce sujet. Certainement, directement, quand il est possible de chercher, de trouver ce lieu, je vais le faire. Alors, le peuple d'Israël était dans le vallée de Moab à cette époque-là. C'était courtement avant de traverser le Jourdain. Alors, qui était le chef, Josué? Certainement, il va directement chercher le lieu. Bon, il a dû, premièrement, être en possession du pays. Bien, il fallait quelques années. Mais après, il va chercher. Et on ne lit rien du tout de cela. Cet homme fidèle, est-ce qu'il a oublié cela? Ou est-ce qu'il a mis l'arche? Où est-ce qu'il a mis la tente d'assignation? Bon, on voit que la tente était à Silo, c'était en Éphraïm, c'était sa partie du pays. Il n'a pas cherché si Dieu a voulu avoir cette tente dans le long d'Éphraïm, de Josué. C'est dommage, il n'a pas demandé. Et après, les anciens, juge 1, juge 2, où on trouve les anciens qui étaient, après la mort de Josué, certainement eux, on ne lit rien. Saül, ce n'est pas du tout sa question. Les juges, dans le livre de juges, aucune question. Et il y a seulement David, beaucoup plus tard, qui a cherché ces lieux. Et Dieu, pour ainsi dire, a remarqué cela. Dans les psaumes, on lit dans le psaume 132 que qui que ce soit a écrit psaume 132 Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses afflictions. Comment il a juré à l'Éternel et fait un vœu au puissant de Jacob. Si j'entre dans la demeure de ma maison, si je monte sur le lit où je couche, si je permets à mes yeux de dormir, à mes paupières de sommeiller, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, des demeures pour le puissant de Jacob. Voilà, c'était dans le cœur de celui qui a recherché la communion de Dieu. Verset 11, l'Éternel a juré à David en vérité, et il n'en reviendra pas, je mettrai du fruit de ton ventre sur ton tronc, etc. Des bénédictions, des promesses à cause de cette fidélité vis-à-vis de Dieu. Dieu doit avoir la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'était juste pour David. Il a commis autant des péchés, même des péchés graves. Mais Dieu a vu que dans son cœur, Dieu avait la place. Et Dieu a dit, j'ai une place en Israël, en Canaan, où j'aimerais habiter. Et c'était pour David la priorité de sa vie. Est-ce que ça aussi pour nous, est-ce que cela a aussi pour nous priorité? Cette place où Dieu a choisi certainement d'habiter. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on trouve deux explications, pour ainsi dire, de ce sujet. Premièrement, 1 Corinthiens 3, verset 16. Verset très connu, comme l'autre aussi, certainement. Il est dit aux croyants à Corinthe, à l'assemblée de Corinthe, 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ça veut dire l'assemblée collectivement est la place d'habitation de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour moi? Est-ce que cela a une priorité dans ma vie? Que Dieu habite dans l'Assemblée? C'est vrai, il habite, 1 Corinthiens 6, verset 19 aussi, dans chacun de nous. Mais aussi collectivement, et c'est le pays. Le pays, ce n'est pas la personne, mais c'est le peuple d'Israël. Et c'est pour nous, cette bénédiction collective, que Dieu habite dans l'Assemblée. Est-ce que ça a une priorité? Si c'est vrai, certainement notre vie en Assemblée, notre vie d'Assemblée, sera dévouée à Dieu, sera en accord avec ce qui est Dieu. Il est amour, il est lumière. Alors notre vie collectif sera en accord avec ces deux natures, essence de Dieu, lumière et amour. Mais deuxièmement, certainement, on peut penser au verset Matthieu 18, où le Seigneur a dit aux disciples, concernant l'assemblée, Matthieu 18, verset 20, car là, où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. L'habitation du Seigneur au milieu de l'assemblée. Si, c'est la condition, s'ils ont assemblé en son nom. Si ils, pour le dire, prendre très généralement, si ils acceptent son autorité dans les réunions. Est-ce que c'est ça une valeur pour mon cœur? Est-ce que la place où le Seigneur est au milieu de ces deux ou trois, ou cinq et six, ou plus, qui sont rassemblés en son nom, si je sens quelque chose de cette valeur, je ne manque jamais si, si je peux venir dans ces réunions, certainement. Ce soir, ce n'est pas une réunion en son nom, dans ce sens, parce que c'était clair qu'un frère va parler. Mais si on est assemblé comme dans la réunion de prière, en fait, ou pour la fraction du pain, ou pour l'édification à 1 Corinthiens 14, c'est le Seigneur au milieu. Est-ce que ça a une valeur pour moi? Et certainement, en contradiction, ou non, en contradiction pas, mais en contraste, pour ainsi dire, de ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était un lieu précis, Jérusalem, le temple. Pour rien, en fait. Aujourd'hui, ce n'est pas une place sur la terre. C'est une place spirituelle, assemblée en son nom. Mais certainement, en même temps, c'est une place locale. Parce qu'il faut se rassembler, assembler. Ce n'est pas en ligne ou quoi, hein, digitalement. Non, il faut quand même être présent à cette place pour être assemblé en son nom. Est-ce que ça a une valeur de chercher cette place? Comme j'ai dit dans l'Ancien Testament, c'est que David, le premier, qui a commencé à chercher cette place. Est-ce que nous avons à cœur de chercher cette place? Et dans ces 21 versets que nous trouvons dans Deutéronome, le Seigneur Dieu nous montre quelques aspects de cette place. Certainement, la doctrine, on trouve dans le Nouveau Testament. On ne peut jamais dire, parce que c'est dans l'Ancien Testament, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Il faut toujours faire le lien avec le Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle il faut rechercher dans le Nouveau Testament où le Seigneur, où les apôtres parlent de cette place pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner par cette place. Mais quand même, si Dieu prend maintenant 21 versets, il est la peine de courtement, pas beaucoup de temps, encore de chercher les pensées. Chapitre 12, verset 3, 2 et 3, Dieu a parlé sur le pays avant qu'Israël entre. Et il y avait les nations avec beaucoup des dieux. Et maintenant, Dieu dit à eux, vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel. Beaucoup de dieux, beaucoup de places pour adorer Dieu, des autels, mais vous chercherez le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira d'entre toutes vos tribus. Pas effrayé, c'était Judas. Ça veut dire un Dieu, un lieu. Nous avons aussi un Dieu. Nous savons trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais un Dieu et une place spirituelle. Ce n'est jamais notre place, c'est toujours sa place. La place où le Seigneur a les droits, où lui est le Seigneur, où on est assemblé en son nom. Est-ce que tu as cherché cette place? Ce n'est pas parce que tu es ici que tu as cette place, pour ainsi dire. Certainement, il ne faut pas chercher chaque semaine de nouveau cette place. Hein. C'est fou de le penser. Mais quand même, est-ce que tu as cherché dans la Bible ce que le Seigneur dit dans le Nouveau Testament sur cette place où le Seigneur est au milieu? Parce que le Seigneur dit, ou les apôtres ont enseigné beaucoup de choses sur cette place. Et il faut le lire, il faut prier sur ces enseignements pour être capable de juger est-ce que c'est la place ici et pourquoi est-ce que c'est la place ou est-ce qu'il y a des choses où le Seigneur aurait dit non, vous n'êtes pas obéissant. Alors, tu ne peux pas les voir dans l'air, mais dans la parole. Pour cela, il faut regarder ce que le Seigneur a dit par la prière. Deuxième point, verset 11, nous avons lu, il y a un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire habiter son nom. Là, vous apporterez tout ce que je vous commande. Ce que je vous commande. Cette place, ce n'est pas une place où l'homme a la liberté de décéder, mais c'est une place d'obéissance. C'est en accord, en fait, avec ce livre. Obéissance, je voulais dire au début, ce n'est pas une chose sévère pour un croyant. Obéissance, c'est ce que nous voulons être. Si le Seigneur était obéissant, c'est dans mon cœur aussi, n'est-ce pas, de vouloir être obéissant. C'est une valeur d'être obéissant, parce qu'on peut imiter, spirituellement certainement, le Seigneur. C'est quelque chose que nous apprécions, de pouvoir être obéissant comme le Seigneur. Pierre 1, verset 2. Ce lieu est un lieu d'obéissance. Ce n'est pas un lieu où l'homme décide, mais où Dieu a décidé déjà, comme nous avons vu dans Matthieu 18. Verset 14, chapitre 12. « Mais dans le lieu que l'Éternel choisira, dans l'une de tes tribus, là tu offriras tes holocaustes. » C'est un lieu d'adoration. Et ça c'est bien que Dieu nous a donné une place où nous pouvons collectivement adorer Dieu. Pour Israël, c'était Jérusalem. Pour nous, c'est l'Assemblée. C'est la réunion en son nom. Quelle valeur! Certainement, on n'est pas réduit dans nos vies quand on adore Dieu seulement dans ses réunions. Non, on a autant de possibilités. J'espère bien que nous connaissons dans notre vie privée, dans notre vie en famille, les occasions où nous adorons Dieu. Il cherche des adorateurs, Jean 4. Et pas seulement dans les réunions, le culte, mais aussi dans notre vie personnelle. Si tu lis quelque chose du Seigneur, quelle est ta réaction? Est-ce que c'est d'arrêter avec lire pour adorer le Seigneur, pour adorer Dieu? Mais ici, c'est un lieu d'adoration. Nous savons, par d'autres passages, le Seigneur nous le montre aussi, que la maison de Dieu était un lieu de prière. Ça, c'est vrai aussi. Je crois que ce n'est pas souligné dans Deutéronome, dans ces 21 versets, mais c'est vrai aussi, l'Assemblée est une assemblée de prière. Absolument. Mais ici, nous voyons quelque chose qui est précieux pour le cœur de Dieu, qu'il y a ceux qui adorent sa personne, son nom. Est-ce que c'est quelque chose qui est précieux pour toi? Que chaque dimanche, nous avons l'occasion de nous rassembler autour de cette personne pour adorer le Seigneur, pour adorer Dieu. C'est ce que Dieu cherche. C'est une expression spéciale dans Jean 4. Verset 18. On a lu, mais tu les mangeras des offrandes devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi toi et ton fils et ta fille et ton serviteur. Et si c'est souligné, ton serviteur, on ne trouve pas souvent ta servante et le Lévite, verset 19, « Prends garde à toi de peur que tu ne délaisses le Lévite tous les jours que tu seras sur la terre. » Ce lieu est aussi un lieu où les Lévites, les serviteurs, ont leur repos et où les dons sont apportés pour les serviteurs ou, pour le dire plus général, pour le service de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? C'est directement dans le Nouveau Testament. Hébreux 13 nous dit que c'est bien parce que c'est le même ordre que nous avons trouvé ici. Hébreux 13. Il y a deux sortes de des sacrifices. Elle est dit dans le verset 15, Hébreux 13, « Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice des louanges, de louanges, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom, adoration. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. » Ça nous montre que c'est aussi un lieu pour les collectes, pour son œuvre. C'est exactement à ce lieu. N'est-ce pas, 1 Corinthiens 16, l'apôtre dit, chaque premier jour, il faut mettre ensemble les collectes. Et on comprend en relation liée avec le culte. Quel privilège de pouvoir donner à Dieu ce qu'il nous a donné. Verset 21. Si le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y mettre son nom est loin de toi, alors tu sacrifieras de ton gros et de ton menu bétail que l'Éternel t'aura donné, comme je l'ai commandé, et tu en mangeras dans tes portes selon tout le désir de ton âme. Ici, nous trouvons une pensée intéressante. Dieu a su que le pays en Israël était très grand, bon, pas dans les dimensions de votre pays ici, mais trop au moins pour toujours, comme dans le désert, aller à l'autel, parce que dans le désert, ce n'était pas permis de manger la viande sans que cet animal était mis sur l'autel avant. Mais dans le pays, c'était différent. Et je crois que l'application spirituelle, le sens spirituel est que la communion, parce que manger dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est toujours l'occasion d'être ensemble, l'offrande prospérité, de paix. C'était la communion. Et la communion des croyants, c'est, on ne doit jamais réduire cette communion au culte, aux réunions. Dieu veut que nous pratiquions la communion entre nous au dehors aussi des réunions. Ça fait une importante partie aussi de notre vie, d'avoir communion les uns avec les autres. Mais quel est le centre de cette communion? C'était ces animaux qui normalement étaient sur l'autel. Ça veut dire c'est Christ. Et la question pour moi, est-ce que notre communion est vraiment centrée sur la personne de notre Seigneur? Est-ce que nous, au dehors des réunions, est-ce que nous avons quelque chose dans nos cœurs pour partager avec nos frères, nos sœurs, sur la personne du Seigneur, disons plus général, sur notre vie spirituelle? Certainement, on peut parler sur notre travail, sur nos situations personnelles, famille, en famille, etc. Mais est-ce que le centre de notre communion, est-ce que c'est Christ et toutes ces choses qui sont liées avec sa personne? Ça, nous trouvons ici. La valeur de communion, ce n'est pas les choses terrestres, certainement pas de ce monde, mais c'est Christ, les choses de la Bible. Verset 26. Toutefois, les choses que tu auras sanctifiées qui seront à toi et celles que tu as vouées, tu les prendras et tu viendras au lieu que l'Éternel aura choisi. Ça veut dire que ce lieu est un lieu de dévouement. Comment est-ce que nous allons dans les réunions? Est-ce que c'est avec une attitude de dévouement, d'apporter quelque chose? C'est dans un autre verset, on le voit encore une fois. Quelle est notre attitude dans les réunions? Est-ce qu'on est là pour donner au Seigneur et aux autres? La réunion d'édification, ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour les autres. Est-ce qu'on est ici pour, avec un cœur de dévouement, d'apporter quelque chose? c'est le caractère que Dieu mis ici. Amen ici, oui. Chapitre 14, verset 23, c'est la sixième fois. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, etc. Ça veut dire ici, nous voyons que la communion certainement a aussi son centre dans les réunions. N'est-ce pas? Ce n'est pas les réunions, ce ne sont pas des réunions pour me montrer que personnellement l'un ou l'autre fait quelque chose. Mais c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose où on est ensemble, assemblés pour le Seigneur, pour les autres. On attend aux autres. On n'est pas seul, mais on est ensemble pour l'adorer, Dieu, pour recevoir quelque chose. Verset 24, chapitre 14 encore. Et si le chemin est trop loin pour toi, de sorte que tu ne puisses les transporter parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop éloigné de toi, parce que l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les donneras pour de l'argent et tu serreras l'argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Deux mentionnements ici. Et le premier, si le lieu où tu habites est éloigné de ce lieu. On trouve cette pensée plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Si j'habite loin de ce lieu où est le temple, je peux m'éloigner du Seigneur. Je peux m'éloigner de cette place où le Seigneur habite. Ça, c'est triste. Ici, c'était normal, certainement. Mais il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, des choses où le peuple n'a pas de responsabilité montrent quelquefois pour nous aujourd'hui une responsabilité. Par exemple, si quelqu'un était mort dans le tente, les personnes qui étaient dans le tente étaient souillées. Mais ils n'ont pas de responsabilité pour cela. Et quand même, la signification pour nous est de ne pas avoir communion avec la mort, avec le péché. Ici, être éloigné de cette place. On trouve la même pensée dans Nombre 9 avec la Pâque dans le désert. C'est si je m'éloigne de cette personne et de cette place, c'est triste. Mais, et c'est le verset 25, la grâce de Dieu a pour toute situation, même pour nos défaillances, pour nos péchés, une réponse. Il y a la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que par la grâce, le péché, on ne voit plus le péché. Mais ça veut dire que la grâce de Dieu est assez grande pour répondre à nos péchés, pour les confesser et pour y aller. Certainement, on peut misuser la grâce. Nous avons lu que Dieu a donné cette possibilité de payer l'argent dans l'environnement de temple pour les animaux. Et on voit dans le temps de notre Seigneur que cette possibilité était misusée, ça veut dire qu'on a pris cette situation pour vendre les animaux d'un grand prix. Alors la grâce de Dieu, ce n'est rien pour la misuser, pour ainsi dire, mais il faut l'utiliser pour le bien pour Dieu. Alors, après, on trouve dans chapitre 15, le verset 21, « Et s'il a un défaut corporel, c'est avant. verset 19. Tu sanctifieras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra parmi ton gros bétail ou ton menu bétail. Tu ne laboureras pas avec le premier-né de ta vache et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Tu les mangeras, toi et ta maison, devant l'Éternel ton Dieu, d'année en année, au lieu que l'Éternel aura choisi. Tu le mangeras, toi et ta maison. Je trouve que c'est très beau que Dieu dit dès le début la place de, où le temple était. Ce n'était pas pour l'homme, pour les personnes masculines, mais c'est pour toute la famille. Toi et ta famille. Et je trouve que c'est très bon. Si possible, certainement, si nos enfants crient, ce n'est pas la peine de les avoir dans les réunions. Mais s'ils sont capables d'être là, c'est une bénédiction que nous pouvons venir en famille. C'est une place que Dieu a donnée, pas seulement pour quelques personnes spirituelles, très spirituelles. Non, c'est pour toute la famille une place que Dieu a donnée. Et on peut seulement encourager de venir en famille comme c'est possible, si c'est possible. Ici, nous voyons que pour Dieu, c'est la place pour toute la famille. Après, on voit dans chapitre 16, verset 2, « Et sacrifie la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, du menu et du gros bétail, au lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom. » La Pâque. C'est un symbole, en fait, de notre culte, de ce repas que nous avons, de ce souvenir à la mort de notre Seigneur. Ça veut dire, ce rassemblement au nom du Seigneur, c'est exactement la place pour se souvenir de la mort de notre Seigneur. Comme nous le voyons dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11, assemblés ou rassemblés, réunis en assemblée, comme il est dit dans 1 Corinthiens 11, verset 18, je crois. Dans le verset 5 de ce même chapitre, oui, tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'une de tes portes que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom, là, tu sacrifieras la Pâque le soir, au coucher du soleil, au temps où tu sortis d'Égypte. Et tu la cuiras et la mangeras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Ça nous montre que la Pâque a dû être mangé et sacrifié. C'est intéressant que le mot sacrifice est utilisé ici avec la Pâque, de Pâques, que la Pâque a dû être mangée à Jérusalem. Et ça nous montre que le mémorial de notre Seigneur, de la mort de notre Seigneur, ce n'est pas une chose qu'on peut faire où on veut. C'est rassembler en son nom, réunis en son nom. Ça veut dire à la table du Seigneur que nous avons ce repas pour le Seigneur. Et que c'est un mémorial, est très clair ici, parce qu'il dit, tu te souviens de ce temps où tu as sorti d'Égypte. Comme la Pâque était un mémorial pour leur rédemption, le mémorial de la mort de notre Seigneur est un mémorial de ce qu'il a fait sur la croix dans ces trois heures de ténèbres. Le temps passe. Je prends encore ces trois mentionnements dans ce chapitre, verset 11. Et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, toi et ton fils et ta fille et ton serviteur et ta servante et le Lévite. qui est dans tes portes est l'étranger et l'orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi, au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Ça nous montre que Dieu, pour ainsi dire, appelle non toutes les personnes qui peuvent participer cette place pour manger de ces sacrifices. Je crois que c'est un appel à nous de toujours penser que la place de l'Assemblée est une place pour, généralement parlant, pour tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas une place pour une certaine sorte de frères ou sœurs, mais c'est pour chaque enfant de Dieu. Certainement, nous savons qu'il y a des obstacles, mais il faut avoir dans le cœur, devant nos yeux, toujours que c'est une place pour tous les enfants de Dieu. Et il faut les embrasser dans nos cœurs. Si nous regardons vers le pain, c'est tous les croyants. Ce n'est pas une groupe ou quoi. Il ne faut jamais penser que c'est une place pour un groupe. Non, c'est pour tous les croyants. Comme j'ai dit, il y a des obstacles, mais il ne faut pas souligner toujours les obstacles, mais il faut voir que Dieu a des bras ouverts, pour ainsi dire, pour les enfants de Dieu, s'ils veulent venir, veulent être obéissants. Verset 15, tu feras pendant 7 jours la fête de l'Éternel, ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toute la récolte, etc. Le lieu de l'assemblée où on se réunit autour du Seigneur est une place de bénédiction. Est-ce que tu veux être béni? C'est exactement la place. Est-ce qu'on a des expériences qui sont différentes? Oui, c'est vrai. On peut avoir des expériences qui sont différentes, mais ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de notre faiblesse, à cause de notre désobéissance. Parce que la chair de ma chair, et peut-être la chair des autres, est active aussi dans ces réunions. C'est la raison pour laquelle souvent il y a un manquement de bénédictions. Mais généralement, c'est exactement la place où Dieu veut bénir. Et il y a une bénédiction spéciale que Dieu a liée avec cette place. Trois fois, verset 16, trois fois l'an, tout mâle d'entre vous paraîtra devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Ça nous montre trois fois, pour ainsi dire, tous les fêtes qu'il y a en étaient les fêtes ensemble, étaient à Jérusalem. Ça nous montre que ce n'est pas seulement le culte. Dieu a plusieurs réunions en assemblée. Et tous doivent être dans ce caractère de l'assemblée. Quel privilège. Je voulais parler sur tous les 21 passages, mais le temps est... déjà fixe, pour ainsi dire. Il faut chercher les autres, chapitre 17, etc., plus tard, qui nous montrent encore d'autres détails importants, en fait, sur ce sujet. Mais peut-être, on a déjà vu un peu combien pour Dieu cette place dans l'Ancien Testament était importante, une valeur pour bénir son peuple. Et Dieu veut le faire jusqu'à aujourd'hui, avec nous aussi, dans cette place. Ce n'est pas la seule place où Dieu nous bénisse, certainement pas, dans le privé, dans la famille, dans le service, etc. Mais quand même, c'est une place d'une bénédiction spéciale de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'aime cette place. Ou, le psalmiste a dit, peut-être pour finir, dans psaume 122, où David a dit, encore une fois. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison de l'Éternel. Quelle joie d'être là où le Seigneur est, d'être là où les croyants se rassemblent autour de notre Seigneur.
Réunis en son nom les
Amen.